Et c'est le journal de Sébastien Legenis. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la Suisse qui met le feu au lac. Les Suisses qui ont battu hier les Français dès les huitièmes de finale de l'Euro après prolongation aux séances de tir au but. Une victoire historique inédite depuis 1954 pour nos voisins qui nous chambrent déjà. Reportage en fin de journal. Mais avant cela, l'actualité du jour aura lieu à l'Assemblée nationale. La loi bioéthique votée définitivement aujourd'hui avec notamment la PMA pour toutes. Mais au-delà de cette mesure phare, que contient cette loi et que ne contient-elle pas? Réponse avec le service santé. À suivre également les bons sondages de popularité de l'exécutif malgré l'échec au régional. Dernier jour demain pour sauver vos heures de formation si vous êtes salarié du privé. Et puis la ville de Bordeaux qui s'inquiète de l'état de ses vieux immeubles.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui la grande Isabelle Adjani. Elle joue dans Sœur, film de Yamina Benguigui dans les salles demain.
France Inter.
Ce sera la première et sans doute la seule grande réforme de société du quinquennat.
Le projet de loi de bioéthique et son article premier, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Après 2 ans de travaux, le Parlement doit en effet adopter définitivement le texte cet après-midi avec une mise en œuvre très rapide pour la procréation médicalement assistée, attendue par des milliers de couples de femmes et de femmes seules. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Chef du service santé, la PMA pour toutes, mesure phare. On en a beaucoup parler sur l'antenne, mais on va balayer avec vous ce matin tout le reste, les autres mesures de la loi bioéthique avec des conséquences majeures également.
Oui, car cette loi change également la filiation. Il ne sera plus nécessaire à la femme qui n'accouche pas de se marier avec sa compagne pour adopter leur enfant. Il lui suffira de faire une reconnaissance anticipée devant un notaire, une démarche accessible également pour les couples de femmes ayant effectué une PMA à l'étranger. Mesure importante également, la levée partielle de l'anonymat pour les donneurs de gamètes et par conséquent l'accès à leurs origines pour les personnes nées de ce don. Le texte prévoit en effet qu'à leur majorité, elles puissent accéder aux informations non identifiantes comme l'âge, la couleur des yeux, le métier du donneur, voire si elles le souhaitent à son identité. L'autre évolution sociétale de ce texte, c'est l'autoconservation des ovocytes en raison de l'âge. Les femmes ne pouvaient jusqu'ici y recourir que pour des raisons médicales ou dans le cadre d'un don de gamètes. C'est aussi la fin d'une discrimination. Les hommes homosexuels n'auront plus à respecter une abstinence sexuelle de 4 mois pour pouvoir donner leur sang.
Voilà pour ces nouveautés, Hélène. Mais pour certaines associations et professionnels de santé, le texte ne va pas assez loin.
Et oui, pour eux, ce texte se contente de rattraper le retard de la France. Parmi les éléments longuement discutés, mais finalement rejetés du texte, il y a notamment l'extension du diagnostic préimplantatoire à la recherche d'anomalies chromosomiques. Ses défenseurs y voyaient la possibilité d'améliorer les chances de réussite d'une PMA considérée comme de l'eugénisme pour ses opposants. Également controversée et supprimée du texte, la méthode ROPA qui aurait permis un don d'ovocytes au sein d'un couple de femmes. La PMA post-mortem pour continuer à utiliser les gamètes d'un conjoint décédé ou encore l'ouverture de la PMA aux personnes transgenres.
Hélène Chevalier, chef du service santé, merci. Puis autre texte de loi attendu, le projet de loi climat et résilience adopté aussi aujourd'hui par les sénateurs cette fois. Après avoir été revu et corrigé, des avancées pour les sénateurs, mais des reculs, estime le gouvernement.
Il est 7h33, l'exécutif, Sébastien, essaie d'oublier l'échec au régional.
Emmanuel Macron a reçu hier 150 patrons venus du monde entier à Versailles pour le sommet Choose France. Inauguration aujourd'hui des nouveaux locaux de la banque américaine JP Morgan. Pas question non plus de changer de Premier ministre, selon une interview du président à lire dans Elle. Bref, le chef de l'État fait tout pour enjamber les mauvais résultats du week-end. Et les sondages le lui rendent plutôt bien pour le moment, d'après le dernier baromètre mensuel Odoxa Dentsu Consulting pour France Inter et la presse régionale. Les courbes de popularité de l'exécutif restent en hausse. 40% d'opinion positive pour Jean Castex, plus 5 points d'un mois, et une popularité stable pour le président, 41% de bonnes opinions. Les sondés, en réalité, font la part des choses entre ce scrutin local et les priorités du moment. C'est l'analyse de Gaël Sliman de l'Institut Odoxa.
C'est une élection perçue par les Français comme un échec personnel pour Emmanuel Macron. Les 3/4 de nos concitoyens estiment que c'est un échec parce que, eh bien, il y a eu cette abstention record et puis ces scores catastrophiques pour l'élite de La République en marche. Les Français attendent de lui qu'il tire les conclusions de cet échec et qu'il change de politique. C'est ce que demandent les 2/3 de nos concitoyens et une majorité souhaite même un remaniement. Mais en même temps, comme dirait l'autre, eh bien, finalement, ça n'a pas une si grande incidence, les régionales, sur la popularité de l'exécutif, à la fois celle du président et celle du Premier ministre, tout simplement parce qu'on l'a malheureusement vu avec cette abstention record, ce qui compte pour les Français en ce moment, c'est la sortie de cette crise sanitaire. Et ça, ça a tellement plus de poids et d'importance que l'issue de ces régionales que finalement, le président, il est nettement plus populaire que ne l'étaient tous ses prédécesseurs à pareille époque. François Hollande ne recueillait que 16%. C'est entre 2 et 3 fois moins.
Voilà Gaël Sliman de l'Institut d'Oxa avec Yael Gauze. Au chapitre sanitaire, 8850 personnes restent hospitalisées pour Covid, dont 1300 en réanimation. Le variant Delta continue de progresser. 7% des cas dans l'Hexagone, alors qu'il ne représentait que 0,8% au début du mois. Mais c'est en Russie que le variant Delta inquiète notamment. 124 morts à Moscou, 110 morts à Saint-Pétersbourg ces dernières 24 heures. Attention, si vous êtes un phobique administratif et que vous êtes salarié du secteur privé, vous n'avez plus que jusqu'à demain soir minuit pour transférer vos heures de DIF 3, droit individuel à la formation, sur votre CPF, compte personnel de formation. Le nouveau système a pris le relais de l'ancien il y a 6 ans maintenant, un système où c'est vous, désormais, qui décidez de la formation que vous voulez faire. Mais pour cela, n'oubliez pas donc de transférer vos droits acquis avant 2015, sinon vous les perdrez à partir du 1er juillet. À la fin du mois dernier, seuls 6 millions de salariés avaient fait ce transfert. Il y a urgence, Claire Chaudière.
L'opération ne prend que quelques minutes sur Internet, mais il vous faudra tout de même remettre la main sur un bulletin de salaire de janvier 2015 ou une attestation fournie par votre employeur, ou encore, si vous n'avez aucun de ces justificatifs, suivre les instructions sur le site moncompteformation.gouv.fr. Pas de nouveau report au programme, a prévenu le ministère du Travail. Autrement dit, sans transfert avant demain soir minuit, vous risquez bien de perdre définitivement des dizaines d'heures de formation acquises au fil des années, jusqu'à 120 heures, c'est le plafond, soit 1800 euros de financement potentiellement perdu. Début juin, la Fédération de la formation professionnelle tirait d'ailleurs la sonnette d'alarme, évaluant à près de 10 millions le nombre de personnes n'ayant pas encore effectué leur transfert, soit 12 milliards d'euros au total risquant de s'évaporer. Et cela alors même, rappelle ses représentants, qu'à l'issue de la crise sanitaire, la formation professionnelle et la capacité de chacun à utiliser ses droits est plus que jamais à l'ordre du jour.
Claire Chaudière. En bref, à l'étranger, c'est un tournant dans la guerre qui ravage le nord de l'Éthiopie. Le conflit au Tigré où s'affrontent depuis 6 mois les forces loyalistes aux rebelles. Hier, les rebelles du Tigré ont repris le contrôle de la capitale provinciale Mekele. L'armée fédérale éthiopienne, elle, s'est retirée de la ville et un cessez-le-feu est maintenant sur les rails. Direction la ville de Bordeaux maintenant. Bordeaux inquiète depuis une semaine après l'effondrement de 2 immeubles en centre-ville. Un effondrement spectaculaire qui a fait 3 blessés, dont un grave, mais dont l'état n'est plus préoccupant. 130 personnes ont dû être relogés, 13 immeubles évacués, des habitants qui seront aujourd'hui, s'ils peuvent ou non, retourner chez eux. La mairie de Bordeaux rend une première expertise aujourd'hui sur l'état du bâti ancien, pas très rassurant, Julie Pietri.
Cette nuit-là, Lucas de Castro rejoint son appartement après une soirée. Il découvre en s'approchant un périmètre de sécurité, des gyrophares et les 2 immeubles effondrés à 2 pas de chez lui. Il a juste le temps de réveiller sa compagne qui n'a rien entendu, quelques affaires glissées dans un sac rapidement, le bâtiment est évacué. Le couple vit depuis chez des amis et n'a pas l'intention de revenir.
On a peur qu'il y ait un effet domino, est-ce que les immeubles se tiennent, est-ce qu'au moment où ils vont déblayer les gravats, les immeubles vont tomber. C'est un quartier avec des vieux immeubles. On a entendu des voisins dire qu'il y avait des fissures chez eux. Ça inquiète tout le monde.
Pour l'instant, les blocs de pierre écroulés n'ont pas bougé. La rue reste barrée, le temps de l'expertise. Mais à Bordeaux, ce week-end, 3 immeubles supplémentaires ont été évacués dans un autre quartier par précaution. Le maire Pierre Urmic ne cache pas son inquiétude.
Bordeaux a la spécificité d'être une ville où on a un habitant ancien très important. C'est environ la moitié des résidences principales bordelaises étaient déjà construites en 1945. Et également, ce sur quoi il faut que nous le montrions, je crois, extrêmement vigilant, c'est sur des travaux de réhabilitation qui ont pu contribuer aussi, par souci d'économie, souvent, à la fragilisation de ces immeubles.
Les résultats d'une étude sur l'habitat insalubre sont attendus avec impatience. En attendant, des inspections vont avoir lieu dans différents quartiers, promet-il, avec à la clé, si nécessaire, des obligations de travaux. Syndics et agences immobilières sont également appelés à faire remonter toute fragilité.
Jolie Pietri.
Et à la fin, 7h39, ce sont donc les Suisses qui ont plumé le coq.
Les Suisses qui l'ont emporté en effet face aux champions du monde en titre en 8e de finale de l'Euro de football. Un scénario inimaginable, historique à l'issue d'un match fou. 3 partout après les prolongations et puis une cruelle séance de tirs au but où c'est l'attaquant vedette du 11 tricolore Kylian Mbappé qui a fait plonger son équipe en ratant son pénalty. C'est donc la Suisse qui jouera contre l'Espagne vendredi en quart de finale à Moscou. Les Suisses qui évidemment ne boudent pas leur plaisir. Valentin Dunat a suivi le match hier soir à Saint-Gingolf, à cheval sur la frontière franco-suisse.
Français ou Suisse, un constat s'impose à la fin du temps réglementaire.
Franchement, c'est fou!
c'est fou. Ça, j'aime le football comme ça. Écoute, cette ambiance.
Ambiance de feu au bord du lac Léman jusqu'à la séance de tir au but. Remporté par les Suisses pour le plus grand bonheur de cette supportrice de la Nati.
Et ben on a gagné. On a battu les champions du monde. Extraordinaire. Ah non, mais j'en reviens pas là.
Vous en pleurez.
Ah non, mais vous vous rendez pas compte, c'est le match de la vie. C'est la première fois que la Suisse arrive à ce niveau.
En effet, les Suisses se qualifient pour la première fois de leur histoire en quart de finale d'une compétition internationale en battant le voisin français et forcément dans un village frontalier. Ça compte.
Ouais, on n'entend pas Cocorico ce soir, ça va top. Mais là, on est ému, quoi, on est ému. Parce que déjà, on a battu le voisin qui nous a toujours battus.
Et maintenant, vous pouvez chambrer un peu les Français, là.
On peut les chambrer pendant 4 ans, là, on est bon. Comme ils nous ont chambrés pendant 4 ans.
Après des années de disette face aux Bleus, les Suisses étaient très fiers hier soir d'avoir enfin cloué le bec des coqs français.
Voilà, le lac Léman en feu, reportage signé Valentin Dunat.
Merci Sébastien Legénie. La politique à suivre.